Bonjour Jean-Marc.
Bonjour Alain.
Nous sommes ensemble aujourd'hui pour parler cirque. On va parler cirque, on va parler du cirque Alexis Grus.
Oui, qui est installé à Piolenc pour tout l'été, depuis le mois de mai jusqu'à fin septembre. Et que nous avons été visités plusieurs fois sur le mois de juin et encore ce début mois de juillet.
Alors on a décidé à RTFM de faire une émission spéciale parce que tu as eu l'occasion de rencontrer monsieur Alexis Grus.
Oui, voilà. Alors, déjà le bon mot est monsieur, parce qu'effectivement c'est un monsieur. J'ai eu la chance déjà de découvrir le spectacle qu'il a proposé fin mai aux Équestriades d'Orange en collaboration avec la Garde républicaine. Et également un spectacle qu'il a fait pour des entrepreneurs lors d'une soirée à l'Université d'Avignon au mois de juin. Et c'est quelqu'un qui a une démarche qui est très intéressante et qui met des mots assez particuliers comme le travail, les rencontres, des démarches... Des démarches et des mots qui parlent, réellement des mots qui parlent et qui ont quelqu'un qui a des valeurs, notamment forcément la famille, parce que quand on parle de Grus, on sait que ça va être une famille, et voilà, c'est quelqu'un qui est vraiment, qui irradie et qui vraiment fascine.
Alors on sent que tu as pris beaucoup de plaisir à rencontrer ce personnage.
Absolument.
Est-ce que tu peux nous donner un petit peu la teneur de l'ensemble de cette émission, en gros, les différentes phases, ce qu'on va aborder, ce qu'on va pouvoir entendre, comment ça va se passer?
Pour tout vous dire, j'avais préparé des mots-clés. J'avais préparé une interview type mots-clés pour parler de la famille, pour parler du travail, pour parler du spectacle, du cirque en lui-même. Et finalement, on l'a laissé parler. Donc, il nous a raconté une longue histoire.
Oui.
De temps en temps, il partait sur un fil et puis on avait une petite digression, mais il revenait toujours sur son histoire. Et quelque part, on va aborder dans cette interview... des notions de racines, parce qu'il insiste beaucoup sur ce point-là, forcément des notions de famille, des notions de travail, et surtout toute l'histoire de son installation à Piolenc, parce que c'est pas évident qu'un cirque national comme le cirque Grus vienne s'installer à Piolenc, et il va expliquer pourquoi ils se sont installés sur ce lieu.
Un cirque à demeure, effectivement, il y a le cirque de Paris, qu'on peut dire que c'est un cirque à demeure.
Oui, et ben justement, il va parler dans cette interview, il parlera de l'installation du cirque Grus à Paris également,
oui.
Qui a été le premier cirque à s'installer à demeure sur la capitale. Et ensuite, ils ont choisi aussi de venir s'installer sur le sud de la France, sachant qu'ils sont une partie de l'année sur Paris et une autre partie de l'année sur Piolenc.
Sur Piolenc. Donc l'ensemble de cette émission, c'est l'interview qui sera découpée en plusieurs blocs, on peut le dire pour nos auditeurs. Donc ils vont avoir le plaisir d'entendre ce grand monsieur Alexis Grus, avec des petites pauses musicales. Et nous qui allons, bien sûr, je vais te poser quelques questions pour savoir effectivement ce que tu as vécu avec ce monsieur.
Absolument.
On se fait la première pause musicale, on se retrouve juste après, et puis après, voilà, on commentera, tu nous expliqueras ce que nous allons écouter. À tout de suite.
Radio Territoire Ventoux, l'esprit jeune.
Let your skin turn into eyes from the top, walking ahead of me, chasing my reflection. All we need is that one spot to come and set us free. Relight the fire in our lives. Leave your mind and run away with me. I'll give you direction. So come get lost in the moment. Fly away until we reach cloud nine. Get lost in the moment. Make this day last till the end of time. Lost in the moment. Take flight until we reach cloud nine. Get lost in the moment. Make this night last till the end of time. We get caught just in a memory, thinking we can press rewind. Looking back is not a remedy, not like looking for some action. I must be dreaming, but shouldn't your thoughts wander back home to me? I'll put my future on the line. Got an act for changing destiny. I'll give you satisfaction. So let's get lost in the moment. Fly away until we reach cloud nine.
swell. This I can remember. Go through the motions, the games we play, the stories that we sell. They haven't changed that much, it's true. What we are done may be the way to hell. Let us pray together as we get lost.
Et bienvenue si vous venez de nous rejoindre sur RTVFM. Aujourd'hui, nous parlons cirque. Je suis avec Jean-Marc. Jean-Marc qui va nous parler, qui nous parle d'Alexis Grus, qu'il a eu l'occasion de rencontrer, comme je disais tout à l'heure, ce grand monsieur, pour une interview qui va durer tout le long de l'émission, puisqu'on va la passer par petits blocs. Et donc, on parlait de ce monsieur, on parlait de tout ce que tu avais vécu. Et puis voilà, je te cède à nouveau la parole.
Et ben, la première partie, puisqu'on l'a effectivement découpé en petits blocs, il va aborder deux thèmes, la complémentarité et les racines. Un mot important pour lui.
Allez, on écoute, c'est parti.
J'ai un tel respect pour les choses que je pense toujours que c'est par la complémentarité des uns et des autres que peuvent naître les choses.
Absolument.
Par les différences. Et les différences, c'est ce que vous savez faire, c'est ce que vos idées que vous avez, conjuguées avec les miennes et conjuguées avec les vôtres, qui peuvent faire naître un bon papier ou une bonne émission.
Tout à fait.
C'est pas vous en voulant prendre ma place et moi en voulant prendre la vôtre. Et on est dans un monde où on veut systématiquement... Alors ça doit arranger tout le monde, sauf la vie.
Ouais.
Ça arrange tout le monde, sauf la vie. Parce que la vie, c'est tellement complexe et ça ne peut fonctionner que par des complémentarités. Un et un, ça fait toujours trois. Donc, cette philosophie que j'ai découverte à travers des citations de Victor Hugo, de Einstein, tous ces grands penseurs et tous ces grands philosophes qui ont résumé en quelques mots la vérité. Celle de Hugo, c'est une petite merveille parce qu'il a dit, et je crois que je l'ai dit à l'université, l'étude du passé et la curiosité du présent donne l'intelligence de l'avenir. C'est indiscutable. C'est un fait, c'est comme ça. Et rien ne peut se faire sans, en réalité, dans la phrase, dans cette petite citation, il y a quoi ? Il y a les racines. Et des racines, on peut tailler les branches, on peut les arranger. J'ai été invité par des amis dans un superbe endroit à côté de Pujon qui s'appelle entre Vignes et Garrigues, chez Serge Chenet. C'est un très très bon cuisinier et il a un type qui est passionné par la nature et il a taillé des oliviers, mais d'une manière... Alors, les oliviers, vous ne les voyez pas le jour. Les oliviers, vous voyez tout le travail qu'il a fait à la tombée de la nuit, quand le soleil se couche, vous voyez, dans cette région magnifique. Et vous avez, sur ce fond bleu-là, ces boules qui ont été travaillées au millième de millimètre par le sécateur de ce monsieur-là, qui a fait une merveille. Et c'est ma définition de l'art. L'art, c'est sublimer le naturel de la nature. Vous la rendez encore plus belle qu'elle est. Et moi, j'ai articulé ma vie sur ces choses-là.
Rendre la nature encore plus belle, les mots comme la complexité de la vie, quelqu'un, c'est un philosophe.
C'est un philosophe et c'est quelqu'un qui a un énorme attachement aussi à la terre. Une anecdote, il nous a expliqué lors du spectacle qu'il a fait à l'université d'Avignon que, en fait, la terre qu'il y avait dans ce fameux cercle de 13 mètres, qui pour lui est une référence, la référence du cirque, il a expliqué que cette terre le suivait dans tous ses spectacles et que c'était la même. C'est-à-dire qu'il il a un camion semi-remorque avec 35 tonnes de terre qui va mettre au milieu du cercle, qui va récupérer après le spectacle, qui va remettre au spectacle suivant, et ça le suit toute la saison.
D'accord.
Et en fait, c'est cette notion, pour lui, c'est une notion importante, c'est la notion de fertilité également. Donc la fertilité, les racines et les choses qui poussent.
Voilà. Donc c'est tout ça, il a parlé effectivement, ouais. Parce que de parler de ses oliviers, le coucher de soleil sur les oliviers, les racines,
ouais, tout
comme
à
tu viens
fait.
De dire, c'est quelqu'un effectivement, ouais. Beaucoup de philosophie, beaucoup d'humilité. Qu'est-ce que l'âge de d'Alexis Grus?
Il a 71 ans.
71 ans, d'accord, et c'est quelqu'un qui... Alors je suppose que c'est de père en fils, le
c'est
cirque.
C'est la sixième génération actuellement. D'ailleurs, on parle de sixième génération, c'est ses petits-enfants.
Oui.
Il en parlera tout à l'heure. Son aïeul était tailleur de pierre.
Oui.
Il est tombé amoureux d'une jolie italienne qui était dans le cirque. Et oui. C'est comme ça qu'il est tombé dans le cirque.
Oui, parce qu'Alexis Grus, nationalité, c'est l'Italien.
Il est français.
C'est français, ouais, mais je veux dire, c'est des origines italiennes ou pas? Peut-être pas.
Non. Mais il a, de mémoire, c'est de Sainte-Mère-et-Humines.
D'accord.
Et en fait, bon, toute l'histoire est partie de là.
Ouais. On se fait une nouvelle pause musicale et on revient après, bien sûr, pour parler toujours d'Alexis Grus.
C'est pas encore notre aventure, Audrey de l'or. Si on se rencontrait à peine, mon amour, quelle aubaine. J'aurais la langue délicieuse, j'aurais une part de moi milleuse que j'aurais pugne désormais. Oh mon amour, qu'avons-nous fait? Je suis de ceux qui restent au port, je sais qu'on devait rire encore. Je suis de ceux, mais tu es le seul qui reste planté à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Tout de toi, je serai tranquille pour qu'on le soit. Si on ne s'était jamais vu, je mâterai tes fesses à ton insu. J'aurai le compliment facile, je serai l'homme fort et le docile. Ce dernier que je ne serai plus, mon amour, je nous ai perdus. Je suis de ceux qui restent au port, je sais qu'on devait rire encore. Je suis de ceux, mais tu es le seul qui reste planté à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Quand tu danses, c'est du dripping, t'es un cadeau pour la rétine. T'es sur une toile de Mondrian, que je saccage de mille couleurs. Jeter sans vergogne et sans plan, juste comme ça pour le bonheur. Je vous imagine même en camping. À Bruxelles, il y a ceux qui restent au port, il y a ceux qui rient encore. Il y a ceux, il y a celles qui restent plantés à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles.
Une radio. Tube. Respirez, vous êtes sûr.
RTVFM, 100% tube.
En réalité, toute la partie spectacle, chevaux, fil et toutes ces choses-là, ça vient des Italiens. faut savoir que on a les Italiens ont été un empire qui a duré un moment et qui a marqué considérablement notre société française.
Ouais, tout à fait.
D'abord parce que on a les mêmes racines, elles sont latines, bien sûr, et que la culture est quelque chose de ben, pour moi, il y a deux choses importantes dans l'éducation des peuples. Il y a la culture et la religion. Uh-huh. Moi, je ne peux pas dissocier l'un de l'autre. C'est curieux parce que les deux fonctionnent et les deux sont tellement différentes et encore une fois tellement complémentaires l'une de l'autre qu'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. Il y a un moment donné, et c'est comme ce qui se passe en ce moment et ce qu'on apprend ce matin en ouvrant
la radio,
la radio et qui nous annonce que l'Angleterre quitte l'Europe, mais l'Angleterre n'a jamais été en Europe. Jamais. Ah. Et donc on est dans ce monde-là qui est un monde où le bon sens... Alors, ça va être tout le sujet du bouquin que je suis en train de faire avec ce jeune garçon-là, avec qui j'ai fait ce livre. C'est quelques pages dans le livre d'Hachette, hein, sur le cheval. Et j'ai trouvé, on a eu des atomes crochus qui ont très très bien fonctionné. Lui, il écrit admirablement bien. Et l'écriture, c'est un métier. Et de dire les choses, je suis en train de vous les dire, et je n'ai pas cette capacité de pouvoir les mettre noir sur blanc.
D'accord.
Et pour pouvoir les mettre noir sur blanc, il faut l'avoir appris. Et avoir un don particulier de pouvoir récupérer ce que je suis en train de dire pour le remettre en noir sur blanc, pour être lu. Car ce qui peut être dit n'est pas forcément bien pour être lu, et tout ce qui est écrit ne peut pas forcément être bien pour être dit. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ressentent les choses comme j'ai envie de les faire passer. Je ne lui dis pas de répéter exactement ce que je dis, mais je veux retrouver... comme de la manière que j'essaye de vous l'expliquer, en posant les mots, en ayant un rythme bien particulier, en appuyant bien sur les mots importants, pour que ça passe, pour que ça intéresse au moins certains. Je n'ai pas l'intention de changer la face du monde, mais on a besoin aujourd'hui, et moi on a accepté et pourquoi on l'a fait ce spectacle dans l'université, avouez quand même qu'entre les zéniths qu'on a pu visiter cette année, Saint-Étienne, Limoges, Nantes, Épernay, Lille, Rouen, Caen, Orléans, Nancy, Dijon et Montpellier, je vous donne les villes dans l'ordre, d'arriver au Théâtre Antique d'Orange avec 90 chevaux, 50 chevaux de la garde républicaine, 40 chevaux de la famille, tout ça sur le parvis du Théâtre Antique, et de quelques jours après se retrouver dans cette cour de l'université avec un public complètement différent, et le lendemain on s'est retrouvé sous notre chapiteau avec 1200 bosses de 3 ans. Ça, c'est la vraie richesse. C'est la diversité. La vraie école, elle est forcément par tout ce parcours-là. Et les gens que j'ai rencontrés à l'université, c'était assez intéressant. Parce que, après, je me suis un tout petit peu accroché. Parce que le préjugé est quand même un handicap terrible. Du reste, j'ai cité Mauché quand j'ai dit que élever votre intelligence sur la ruine des préjugés, c'était la fin de mon petit boniment. Je trouve que c'est un handicap terrible, un mur, un obstacle infranchissable. Le préjugé, Einstein l'a dit, il est plus facile de combattre les atomes que les préjugés. Comment aller changer les idées de gens qui jugent avant même d'avoir vu quoi que ce soit, ou entendu quoi que ce soit, ou touché quoi que ce soit, ou goûté quoi que ce soit, ou sentir quoi que ce soit. Parce que là, c'est l'essence. Hein.
Un personnage de bon sens par rapport à tout ce que l'on entend.
C'est un sage.
Voilà, c'est ce que j'allais dire, un sage.
C'est un sage, on sent une expérience, on sent du travail, on sent du vécu.
Oui.
Et c'est vraiment quelqu'un qui donne des leçons. Mais des leçons sans, comment dire, sans mettre les choses en avant, enfin, oui, sans se mettre en avant et sans paraître comme un donneur de leçons. C'est-à-dire que c'est sa vie et c'est ce qu'il raconte, parce que quelque part, il nous a raconté une histoire pendant l'heure où qu'on a passé dans son bureau. Il nous raconte une histoire et ses leçons, je dirais, transpirent de son histoire, quoi.
De son histoire. Alors, ça a été réalisé à quel endroit? Parce qu'il nous parle de l'université. Si tu veux parler un petit peu de ce qui s'est passé à l'université, justement, d'Avignon.
Alors, l'université d'Avignon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est, si on prend le cœur de l'université, c'est un magnifique bâtiment, tout en pierre. Il faut savoir que l'université d'Avignon, c'est l'une des 3 ou 4 plus anciennes universités de France. Le paradoxe, c'est que c'est la plus petite université de France actuellement, mais c'est aussi, je pense, en termes d'architecture, l'une des plus jolies.
La plus ancienne, par le bâtiment, pas par l'université d'Avignon. Tu parles du bâtiment, qui est l'un des plus anciens.
Non, la création. De l'université.
D'accord.
Même. Oui,
moi, je pensais le bâtiment.
La première, évidemment, est Paris. Oui. De mémoire, c'est la 3e ou 4e.
Ah, d'accord.
Voilà. Sachant que, bon, si on rentre dans l'histoire, toutes les universités ont été supprimées, en fait, à la Révolution française et recréées plus tard. Mais si on prend la création originelle, Avignon est la 3e ou 4e. Et la cour, dans ce bâtiment, il y a une cour carrée, vraiment magnifique, où le cirque Grus a posé sa piste, en fait, son cercle de 13 mètres de diamètre, et a fait toute sa démonstration, son spectacle dans cette cour, et c'était un cadre absolument sublime, quoi. C'est vrai que ça, je veux bien comprendre qu'entre les zéniths, son chapiteau et le théâtre d'Orange, ils ont des sensations quand ils font leur spectacle qui sont forcément
différentes.
Sensations totalement différentes.
Ah oui, l'intérieur, l'extérieur, c'est totalement différent les uns et les autres. Oui. Merci Jean-Marc, on continue, on écoute la suite de cette interview de monsieur Alexis Grus.
Il y a une petite église à Sainte-Marie-aux-Mines qui s'appelle l'église Saint-Alexis, qui a été construite par mon arrière-arrière-grand-père et mon arrière-grand-père. L'arrière-arrière-grand-père était architecte et mon grand-père était tailleur de pierre.
D'accord.
Mon arrière-grand-père était tailleur de pierre. Et donc, on a poursuivi. Et ma rencontre avec Sylvia Monfort en 74 est liée à l'arrivée du cirque à Paris. Là, il y a encore une fois, il n'y a pas de hasard. L'initiative de Sylvia Monfort, qui est directrice du Centre culturel de Paris, qui s'appelle le Carré Torigny à l'époque, est en plein cœur du Marais, et elle entend dire que rue du Faubourg du Temple, il y a 2 siècles exactement, un Anglais, Philippe Astley, a importé un cercle de 13 mètres de diamètre qu'il a posé là, en plein cœur du Marais. Et le carré Torigny et la rue du Faubourg du Temple, c'est à 2 pas.
Oui.
À 2 pas. Et Sylvia crée une exposition sur le cirque. Il faut rappeler qui est Sylvia Monfort. Sylvia Monfort, c'est une actrice de théâtre, de dramatique, qui a été partenaire de Jean Villard à la création du Festival d'Avignon, qui était une militante terrible, hein, qui a été décorée par le général Patton, qui a été décorée par le général de Gaulle pour son action dans la résistance pendant l'occupation, et son action surtout qui a été déterminante pour la libération de Chartres. Ça, c'est tout ce que je sais sur elle. Et son mari, Pierre Grunberg, m'a offert le brassard bleu, blanc, rouge, FFI, de Sylvia Monfort. Je l'ai chez moi. C'est des moments très, très forts avec la croix de Lorraine dessus. Donc, vous voyez, je parle et ça me donne la chair de poule de dire ces choses-là. Et donc, il se passe cet événement et elle veut faire venir un spectacle. Pourquoi pas aller encore plus loin, une exposition, c'est bien, mais un spectacle de cirque. Et là, le cirque d'hiver est à 2 pas du carré Torigny. Mon beau-père, Firmin Bouglione, passe par là, va voir cette exposition, envoie son copain dire à Sylvia, propose-lui le cirque de mon gendre. Et puis là, il y a les contacts qui sont faits, je ne vous raconte pas tout, mais la première année, 74, a été une année fantastique pour le cirque. Parce que, j'avais un contrat d'un mois, je suis resté 10 ans avec elle. 2, dès 74, j'ai créé et ouvert à Paris la première école de cirque en France, dans les locaux de la Gaîté Lyrique. Hein? Aujourd'hui, il y en a 1200, je crois. Il y a 4 grandes écoles nationales. Et puis, il y a surtout une organisation. Mais je continue. Hein. Et d'un seul coup, vous êtes dépossédé de tout.
Ouais.
Mais ça, c'est bien. Moi, je n'ai rien contre. Mais pour moi, le mouvement, il va dans les racines. Il ne peut pas y avoir d'autres mouvements. Ne coupez pas les racines. Vous allez en refaire d'autres. Mais ce ne sera plus du tout la même nature. C'est autre chose. Bon. Et donc, un ami à Sylvia, qui est directeur du Festival d'Avignon, qui s'appelle Alain Crombec, apprend que je fais un spectacle sur la Révolution française en 89, puisque je change de spectacle tous les ans, depuis 74. Et donc, Alain Crombec vient voir le spectacle et me propose de faire le Festival d'Avignon IN. Et je suis dans le IN en 89 et il installe ma piste et mes gradins, une petite partie des gradins, dans la cour de l'ancienne archevêché. Et ça a été un succès formidable. Et de succès, j'étais le seul spectacle à thème sur la Révolution française dans le Festival d'Avignon. Et on a des éloges de la presse, on fait la une de tous les journaux, France 3 parle de nous, les radios parlent de nous, et je rencontre un type qui s'appelle le président Garcin, qui était président du Conseil Général, et qui vient voir le spectacle, qui vient nous saluer à la fin du spectacle, et qui me fait beaucoup de compliments, mais je dis... Monsieur le Président, si vous voulez savoir comment ça se passe, comment on forme les chevaux, il faut venir très tôt le matin au parc des équipages. C'est là où on avait notre campement, comme on l'appelait à l'époque. J'avais la piste, j'avais les boxes des chevaux, nos caravanes, les cantines du personnel, tout ça. On était à l'emplacement du palais de justice, là, aujourd'hui. Et donc, un matin, il débarque à 6 heures du matin. Et j'étais déjà en action avec les chevaux. Et il a vu comment ça se passait, et au bout d'un moment, il me dit, mais comment vous faites pour le mettre debout? Ben, il dit, écoutez, monsieur le président, je vais vous donner une cravache, je vous envoie le cheval, il s'appelle Xego, bien sûr, j'ai choisi le cheval adéquat, hein. Je ne vais pas envoyer n'importe quel, je dis, vous l'appelez Xego, il va venir vers vous, vous levez la cravache, il se met debout, vous baissez la cravache, il descend. Ah bon, vous priez? Ben, j'ai dit, oui, si je vous le dis. Je lui envoie le cheval tourne, Xego, le cheval vient, il lève la cravache, le cheval se met debout. Il baisse la cravache, le cheval descend. J'ai dit, n'oubliez pas de lui donner un sucre, il faut le réconforter. Et il y a eu un climat qui s'est créé avec ce monsieur, et je lui dis, monsieur le président, j'aimerais bien m'installer dans votre région.
I'm from Mars, you're from Y. Perfect strangers in the night. Here we are, come together. To the world we'll testify. Our hearts alive.
Je lui fais un petit truc, en lui parlant surtout de la transmission et de l'héritage que j'ai et de la conscience que j'ai de pouvoir pérenniser ce qui m'a été retransmis par mes arrière-grands-parents, mes grands-parents, mes parents et tous les maîtres avec lesquels j'ai travaillé, et ça l'a séduit. Et puis il m'a proposé certaines choses, tout ça. Et puis un jour, il me fait venir, j'étais à Paris, et il me propose de rattacher mon projet à l'aire autoroutière qui devait se faire ici dans le Vaucluse. Qui était une idée géniale parce que on s'est encore pas rendu compte que l'endroit même où vous êtes aujourd'hui, vous êtes au cœur de l'Europe du Sud. Les échangeurs à 9 et à 7 sont ici. Et vous êtes en gros à 200 km de l'Espagne, 200 km de l'Italie, 200 km de Lyon. Et c'est ici que ça se passe. Et jamais personne n'a compris ça. Et ils se heurtent les uns aux autres pour essayer de nous faire croire que c'est ailleurs qu'il faut le faire. Non, le centre, il est ici. Et sinon, après, vous décentrez. Ça peut marcher, mais ça marche moins bien. Et donc, il se passe des élections, mais ça, on sait ce que c'est. Et le président Garcin est battu au bénéfice de l'âge par De Routil. Et il m'appelle le soir, le président, parce qu'on avait vraiment eu des relations affectives. Moi, c'est pas les étiquettes, je m'en fous. C'est l'homme qui m'intéresse. Après le costard, la bif est pas le moine, comme dirait l'autre. Et comme j'avais bien sympathisé avec lui, il me dit, voilà, il faut que je vous dise quand même que on m'a trouvé trop jeune pour être président du Conseil Général. C'est mon copain De Routil qui a pris ma place parce qu'il a 2 ans de plus que moi. Et tout le projet qu'on avait commencé à parler en 90, 91, 92 a été balayé d'un trait par toute l'autre équipe. Et donc, je continue mon instigation. Je fais le festival de Carpentras avec Jean-Pierre Darras, qui était un ami très intime. Là aussi, ça a été un coup de grâce pour moi, parce que on est au festival d'Avignon, on prépare le festival de Carpentras pour l'année d'après, et il me fait dormir chez lui, à Suzette, dans cette bastide magnifique. Et le matin, il y avait deux grandes fenêtres ouvertes, hein, Gypsy à côté de mon épouse, à côté de moi. On était dans la chambre de sa mère, et je découvre les dentelles de mon irail, de mon lit, et j'ai plus envie de partir. Ça a été, voilà. Et après, je réfléchis, et je continue à vouloir m'implanter. Et puis, on achète une petite maison à Sérignan-du-Comtat, et sans vouloir l'habiter. Du reste, c'est pour ça que je l'ai acheté, parce que les gens qui l'habitaient n'avaient pas les moyens de partir. Mais je dis, mais vous restez dedans tant que vous voulez. Nous, moi, ce que j'ai voulu, c'est avoir un endroit pour me mettre à l'abri, de ne pas avoir à demander au placier l'autorisation de m'installer. Et c'est le cas. Et donc, je continue mon système, et puis un jour, le maire de Sérignan, où on a la petite maison, me dit, voilà, il y a deux types qui veulent te rencontrer, ils font partie d'une association, là, ça s'appelle la DAPO, et ils ont quelque chose à te proposer, parce qu'ils t'ont entendu à la radio dire que tu cherchais un emplacement dans le sud. Et donc, je viens de Paris, et on fait ce déjeuner dans ce petit village là de Henri Fabre, qui était un magnifique petit village, où il y a une histoire aussi de cet entomologiste qui a tout découvert sur la vie des insectes.
Il parle de son amitié avec Jean Garcet, l'ancien président de région. On sent qu'il y avait quand même une amitié. C'était une amitié finalement avec un homme politique. Il dit je regarde pas la couleur politique ni le costume, mais on sent qu'il y avait une certaine amitié et que ça a joué sur l'implantation, sur le lieu, sur l'endroit où se trouve Alexis Grus.
Ça a joué sur l'implantation et on sent au fil de la discussion, au fil de l'entretien qu'on a eu, que les rencontres ont beaucoup joué pour lui. L'ont beaucoup influencé. Il n'y a pas forcément énormément de personnes dont il va parler, mais il parle de Sylvain Montfort.
Jean-Pierre Darras aussi.
De Jean-Pierre Darras, de Jean Garcin, qui, dans des dates et dans des circonstances différentes, vont beaucoup compter sur lui, beaucoup compter pour lui.
Pour lui.
Donc, voilà. Et c'est vrai que Sylvain Montfort, avec l'installation du cirque sur Paris, alors qu'il aurait dû y rester un mois, il est resté 10 ans, et la création de l'école de cirque, parce que c'est aussi quelqu'un qui est très impliqué, enfin, pour lui c'est très important de transmettre, pas forcément de la pierre, mais vraiment transmettre, il en parlera tout à l'heure, transmettre du savoir, transmettre des traditions, transmettre des métiers. Et c'est quelqu'un qui, quand il parle de sa famille, il parle des générations. Et c'est vrai, quand on parle de la première génération, c'est première génération de cirque. Mais il parle aussi beaucoup de la sixième, qui aujourd'hui a qu'une dizaine d'années ou plus, quoi. Et c'est pourtant ses petits-fils font déjà partie du spectacle. On les voit en spectacle.
Alors moi, je le sens un petit peu militant aussi, parce que les gens sur lesquels il avait beaucoup d'amitié, dont Jean Garcin, qui a été donc un résistant en politique, il y a aussi Sylvain Montfort, théâtre populaire. On sent quand même des gens qui l'entourent, Jean-Pierre Darras, qui était quand même assez des militants quelque part. Je ne sais pas si le mot lui plairait, mais moi je le sens un petit peu militant. Du bon côté des choses, pas militant engagé politique.
Je pense que militant, oui, des gens avec des valeurs. Clairement, parce que c'est vraiment un des mots qui colle à sa personne, je pense, des valeurs, un attachement à un certain mot-clé de la vie, certains mots-clés de la vie qui deviennent des choses importantes pour lui, quoi.
D'accord. Ben, on continue, je pense, je me tourne vers le technicien, on continue à écouter Alexis Grus.
Et donc, on fait ce déjeuner, et un des messieurs qui est là me dit, est-ce que vous connaissez le château de Purlinc? Ben, je dis oui, j'en ai entendu parler à l'époque où on avait ce projet avec le conseil général, parce que il était justement sur cette surface de terrain. Donc c'est comme ça que j'en ai entendu parler. Mais j'étais jamais venu. Et le monsieur me dit, vous devriez aller le voir. Mais je dis pourquoi? Il me dit, ça pourrait peut-être vous intéresser. Et je lui dis textuellement, on a dîné l'autre jour avec ce monsieur là. Et mais tu te rappelles quand tu m'as dit, quand je t'avais parlé du château Purlinc, qu'est-ce que tu m'as répondu? J'ai dit oui, je me rappelle ce que je t'ai dit. Qu'est-ce que je t'ai dit? Ben tu m'as dit exactement avec son accent de Provence, il m'a dit, est-ce que j'ai une gueule à vivre dans un château? Ça fait 23 ans qu'on y est. Parce que quand on est passé par-dessus le mur, et que j'ai vu l'endroit, j'ai dit, mais c'est exactement ça. On ne peut même pas le faire fabriquer. On n'a pas l'idée de faire ce que la nature a fait depuis des siècles. C'est un drôle de truc. Et il se passe quelque chose quand j'entre ici, mais qui est incroyable. Parce que je crois qu'encore une fois, c'est ces rencontres, là, de ces différences, là, qui fait naître justement ce qu'on est en train de faire. Quoi. Voilà. Et donc, on a fait les démarches pour entrer ici et on nous a donné l'autorisation en 1994 de rentrer dedans. Voilà. Vous avez deux sortes de gens. Vous avez ceux qui font et ceux qui disent. Ça, je vais vous raconter cette petite citation que je trouve qui vaut son pesant d'or. C'est Nehru qui dit ça à sa petite fille Indira Gandhi. Il dit, tu sais ma fille, dans la vie, il y a deux sortes de gens. Il y a ceux qui font le travail et ceux qui s'en attribuent le mérite. Tâche de faire partie du premier groupe, il y a moins de concurrence.
Vous écoutez RTVFM, la radio locale de Carpentras sur le 102.2.
Ma peine au fond d'une fiole, puisqu'on ne sera plus ensemble. Qu'on s'abandonne, c'est fou ce qu'on se ressemble. on ne se reverra pas. T'aimes tant te faire du mal. L'amour c'est comme ça. Tout ne tient qu'aux détails. Alors j'écoute, tu me restes lisse. Et le temps passe. On s'afflige des supplices. Puis on se lasse. Prisonnier de mon spleen. La peine c'est pas du toc. Des larmes de crocodile. Mon Airbnb. Donne-moi de tes nouvelles. Si la nuit tu es seul, peu importe qu'on s'aime ou qu'on se fasse la gueule. Alors j'écoute, tu m'as resté laisse. Et le temps passe. Des supplices. Puis on se lasse. Alors j'écoute, tu m'as laissé laisse. Et le temps passe. On s'afflige des supplices. Puis on se lasse. Dis-moi encore que tu m'aimes. Au fond de cette spirale, ce fan, les chrysanthèmes, ce fan, tous tes pétales. Alors j'écoute, tu m'as resté vice. Des supplices, puis on se lasse.
Bien, vous êtes sur RTVFM, la radio locale et pédagogique de Carpentras. On parle déjà depuis une bonne quarantaine de minutes d'Alexis Grus avec Jean-Marc Bem qui a eu la chance de rencontrer, on peut le dire, ce monsieur et qui
l'a
une chance avec qui tu as ben voilà pu faire cette interview qu'on diffuse par petits bouts les uns derrière les autres et où on apprend beaucoup beaucoup de choses sur cette personne. Là, on vient d'apprendre ben, par rapport à l'implantation. On a parlé de son amitié avec Jean-Pierre Darras, son amitié avec Jean Garcin à l'époque le président du conseil départemental. Mental. Mais on parlait en off un petit peu du côté du château, puisque là, à un moment donné, il parle, il dit oui, bon, quand on m'a proposé le château, je me suis dit, moi, vivre dans un château, jamais je vivrai dans un château. Alors, tu peux nous en parler un petit peu plus de ce château ?
Eh ben, en fait, c'est plus le lieu. Il nous parlera tout à l'heure de ce lieu. C'est plus, pour lui, je pense, un endroit plus que le bâtiment, puisque le bâtiment est pas vraiment habité. Il y a quelques bureaux qui sont installés à l'intérieur. Ils ont toujours leur caravane, c'est-à-dire que leur lieu de vie, on va dire, c'est la partie cirque qui va être dans le parc, puisque oui. c'est un très très beau parc arboré avec une grande pelouse où les gens peuvent aller jouer entre les différents spectacles. Mais leur lieu de vie, je dirais personnel, ça reste leur caravane. Qui sont garés sur le parking, quelque part à l'extérieur du parc.
Alors, toujours cet attachement à la mobilité, je pense que c'est dans leur façon de vivre.
Oui, et puis bon après, je pense qu'il y a aussi peut-être l'ensemble des travaux à faire dans le château qui n'était pas forcément évident.
Et malgré tout, est-ce qu'ils habiteraient pas malgré tout est-ce qu'ils resteraient pas dans la...
Ça, seuls eux peuvent le dire.
Ouais,
tout à fait.
En tout cas, vraiment quelqu'un de très très intéressant. Là, on passe sur un autre bloc. C'est le sujet un petit peu de ce qu'on va entendre maintenant, Jean-Marc.
Là, il va nous parler de mots importants pour lui. Le travail, le fameux cercle de 13 mètres de diamètre. En passant sur l'histoire de la famille, de sa famille, et surtout la notion de transmission. Mais transmission, c'est pas forcément une transmission liée au château, une transmission de pierre. C'est plutôt une transmission de la maîtrise et de
savoir.
Du savoir, voilà.
D'accord, on écoute.
Le cirque moderne s'est sédentarisé dès 1774. Parce que c'est juste la période avant la Révolution, 1774. Hein. Et l'autre, c'est la fin de la Révolution, c'est 89. Ouais. C'est, on y est. Hein. Et que là, il fallait. C'est l'arrivée de Colbert. C'est l'héritage de Louis XIV. C'est, bon, je schématise un peu, je ne suis pas historien, hein, mais moi je remarque comme ça les époques, et je reviens à cette rencontre avec cette différence d'âge de ces deux personnages qui ont été des personnages très importants dans l'histoire de France, qui étaient le cardinal Mazarin et Colbert. Colbert qui était l'enfant de spirituel de Mazarin. Et Colbert vient voir Mazarin et dit, voilà, cardinal, j'ai un problème, j'ai des dettes, qu'est-ce qu'on va faire de moi? Alors je vous résume l'histoire, et ça c'est vrai, c'est pas une blague. Et Mazarin répond à Colbert, il dit, mon gars, si t'es endetté, tu vas aller en prison. Ah bon? Mais l'État, quand il est endetté, il va en prison. Il dit, non, on peut pas le mettre en prison. Alors qu'est-ce qu'il fait pour régler ses dettes? Ben, il crée des impôts. Ah bon? Et qui paie les impôts? Les pauvres? Ben non, ils ont pas d'argent. Les riches, ben non, parce qu'ils font vivre un peu les pauvres. Alors pourquoi? C'est lesquels? Ben ceux qui payent les dettes sont ceux qui travaillent. Ah bon? Et pourquoi ceux qui travaillent? Ben parce que celui qui travaille, je vais t'expliquer ça, tu vas le comprendre tout de suite. Celui qui travaille, il a la hantise d'être pauvre et il rêve d'être riche. Alors plus tu lui en prends, plus il travaille. Le cirque, pour moi, c'est un lieu. Un lieu. Et ce lieu, c'est un rond de 13 mètres de diamètre qui a été apporté il y a 250 ans, un peu plus de 250 ans, par l'anglais Philippe Astey. Et c'est dans ce lieu, c'est pas la toile, ni les gradins, ni le toit du truc qui fait le lieu. Le lieu, c'est l'espace scénique. Infini par la forme, infini par la matière et fertile. S'il n'y a pas la forme, s'il n'y a pas la matière, il n'y a pas la fertilité. C'est fondamental pour moi. Ça pourrait être la conclusion de tout ça, c'est Nougaro. Nougaro, on fait un spectacle sur les 30 ans, ça s'appelait Tel maître, tel cirque. Tel maître au pluriel, tel cirque au singulier. Et c'est un spectacle qu'on a fait deux fois à Paris. Et pendant ce spectacle-là, c'était l'histoire de ma famille. Et ça commençait par moi en robe de chambre, assis sur le tabouret d'éléphant, en train de faire la mèche à ma chambrière. Et là arrive mon petit-fils, Louis, qui a 17 ans maintenant. Et mon petit-fils vient et puis il me dit « Oh, Papy Junior, qu'est-ce que tu... » Il m'appelle Papy Junior. Et c'était comme ça, et tous mes petits-enfants m'appellent Papy Junior. Et donc il vient et puis il me dit qu'est-ce que tu fais, Papy Junior? Ben, il dit, je suis en train de faire la mèche à ma chambrière. Exactement comme ça. Ah bon, qui est-ce qui t'a appris à faire ça? T'es un professeur? Non, 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 non. Non, non. Celui qui m'a appris à faire ça, c'est mon maître. Et là, il y avait Gypsy qui entrait dans la conversation, la grand-mère, et qui dit je vais t'expliquer, mon fils. Le maître, le professeur, il t'explique comment il faut faire. Bien, c'est important. Mais le maître, lui en plus, il te montre comment il faut faire. Et il t'explique avec des mots, mais l'autre, il a les mots et en même temps, il te montre le geste, qui est pour moi fondamental. Le geste est la chose la plus éphémère qui existe au monde. Ce que vous savez faire aujourd'hui, si vous le mettez de côté 8 jours, vous le réapprendrez. Demandez à un musicien, demandez à un pianiste, demandez à un peintre, demandez à... Les peintres, non, parce qu'ils peuvent nous faire croire plus de choses, parce que la valeur même de la peinture n'est plus fondée sur une réalité. Elle est fondée sur ce que les gens veulent bien en faire. Mais quand je vais voir l'exposition de Caravage à Montpellier il y a 3 ans au musée Fabre, je reste en extase devant l'étoile de Michelangelo, parce que il y a comment le cerveau humain a pu trouver la matière et le geste pour laisser des traces encore si longtemps après d'une telle beauté et d'un tel réalisme. Plus beau que nature. Et donc, et on a cette expression, nous, dans notre famille, si on ne parle pas de professeur ni de maître, on parle de père d'élève. C'était comme ça chez moi. Moi, ma génération, mes enfants, non, on est passé à côté, c'est dommage, mais ça m'est revenu quand on a créé le spectacle. C'est pas mon professeur, c'est mon père d'élève. C'est quoi un père d'élève? Ben, c'est celui qui retransmet son art à un élève. Que ce soit son fils, sa fille ou n'importe qui d'autre. Il y a le côté maternité, paternité, de transmission. Pour faire un gosse, il faut un père et une mère. Tout le reste, c'est un bordel. Après, on entre dans des débats. Et puis, on se prive de satisfactions éphémères qui sont redoutables. Et donc, voilà. Et dans ce spectacle-là, Nougaro vient. Et à la fin du spectacle, on avait une petite réception à l'issue de la première. C'est quand même une petite première chez nous. C'était 3000 personnes qui venaient. Et Nougaro me prend par l'épaule à la fin du spectacle et dit: toi, mon fils, ton cirque, c'est un oiseau. Mais cet oiseau ne se pose pas sur les branches. Il se pose sur les racines. C'est magnifique. Parce qu'il y a tout là. Il y a l'évolution. Dans la tradition, il y a ce que disait Hugo, l'étude du passé, la curiosité du présent. Si vous n'avez pas la curiosité de ce qui se passe aujourd'hui, il y a ce trait d'union entre le futur et le passé. Le trait d'union, c'est le présent.
Le cirque est un lieu de 13 mètres de diamètre.
Il a expliqué à l'époque à l'Université d'Avignon que c'était la dimension idéale pour faire tourner les chevaux dans un sens ou dans l'autre, avec les notions, là je ne suis pas du tout doué sur ces notions-là, mais des notions physiques de force centrifuge, et c'était le meilleur moyen de trouver l'équilibre. Et quand on le voit, parce que on va en parler de leur spectacle, oui. Mais quand on voit les spectacles qu'ils font, que ce soit les chevaux, que ce soit des jongleurs, que ce soit des acrobates aériens, ou que ce soit du dressage de chiens ou de chevaux, tout est dans l'équilibre. Mmh. Et ça, c'est extrêmement important et extrêmement étonnant, parce que même dans leur dernier spectacle, Maud Grus, la fille, fait un numéro de fil absolument extraordinaire, sur un fil qui doit peut-être faire, je sais pas, un centimètre ou deux de diamètre, de faire les figures qu'elle fait, et de prendre les poses qu'elle fait, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est une notion, je crois que tout tient dans l'équilibre, c'est-à-dire qu'on l'entend même dans toute l'interview, il parle de complémentarité, il parle aussi très souvent de choses qui sont opposées. Et en fait, voilà, c'est trouver l'équilibre entre deux notions qui peuvent être opposées, et de trouver l'équilibre de la vie, quoi, finalement.
Alors, avant de conclure, si on peut conclure dessus, un monsieur aussi intéressant et un personnage comme Alexis Grus, mais ça serait peut-être bien, voilà, de parler un petit peu de tout ce qu'ils organisent. Alors, peut-être parler des journées du parc, des soirées, il y a des choses en journée, il y a des stages.
Alors, déjà,
tout un tas de choses, déjà.
Déjà, situer le parc, le parc Alexis Grus est situé à Piolenc. Donc, soit sur la Nationale 7, si vous souhaitez ne pas prendre l'autoroute.
Il est très visible.
Voilà, il est très visible de la Nationale. Et il est aussi visible de l'autoroute où vous pouvez sortir à Piolenc.
Oui, il y a une sortie maintenant.
Voilà, il y a une sortie Piolenc, voilà. Donc ça, il est ouvert tout l'été, du lundi au vendredi, de 9h30 à 16h30. Il y a des activités à animation le matin, notamment pour les enfants, bien sûr, qui est suivi d'un spectacle à 13h30. Tous les jours à 13h30, donc du lundi au vendredi. Et depuis 2 ans, donc là c'est la deuxième année, ils ont mis en place les soirées du parc tout l'été, donc les mardis et jeudis à partir de 18h30 avec un grand spectacle à 20h. C'est-à-dire vous pouvez arriver à 18h30, il y a de la musique, il y a du spectacle d'extérieur, vous pouvez vous restaurer sur place, et 20h30 un grand spectacle de 2h30 avec un entracte, mais vraiment un beau spectacle qui vous fait replonger dans les... Pour les plus anciens, comme moi, comme nous, qui nous fait replonger dans la piste aux étoiles.
La piste aux étoiles, voilà. On en parlait tout à l'heure. Ouais. Donc, par contre, on peut parler peut-être un petit peu, mais ils ont un mail aussi sur lequel on peut les contacter toute l'année, qui est leparc, alexis-grus.com. Voilà, un numéro de téléphone aussi, 04 90 29 49 49. Voilà, il y a pas mal de choses. Je vous conseille d'aller sur le site directement où vous pourrez avoir les informations que vient de vous donner Jean-Marc, mais il y en a bien sûr un petit peu plus. Vous aurez les offres spéciales pour les cartes de fidélité, les tarifs de groupe, les offres anniversaires, les offres journée soirée. Donc vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Vous aurez aussi une vidéo qui pourra vous donner un petit peu la teneur de ce qu'il réalise, si ce n'est pas déjà le cas, si vous n'avez pas déjà pu aller à ce cirque. Ce que tu peux conseiller, toi qui as été à plusieurs reprises, qu'est-ce que tu peux dire à nos auditeurs?
Surtout, allez-y. Parce que ça fait, oui, ça fait replonger. Aujourd'hui, on est dans un monde où tout va vite. Donc, c'est replongez-vous dans un monde de rêve.
Alors, est-ce qu'on sent la présence déjà? Est-ce qu'il est présent physiquement, ou est-ce qu'on sent la présence maintenant, toi que tu le connais un petit peu plus, d'Alexis Grus sur l'ensemble du spectacle, sur la chorégraphie? Est-ce que
alors, il nous a dit qu'en fait, il laissait toute cette partie à ses enfants.
Oui.
C'est-à-dire maintenant, mais il a dit aussi, comme tous les parents qui leur donnaient des avis, et comme tous les enfants. Il nous a dit que ils en tiennent compte quand ils ont envie.
D'accord. Donc, enfin, mais je pense que il doit donner voilà. Son point de vue. Oui, c'est quelqu'un qui doit être encore écouté par ses enfants. Absolument. Donc le parc est ouvert jusqu'au 1er septembre. Après, ben il se continue effectivement dans d'autres lieux, dont la région parisienne, dont Paris, le cirque d'hiver.
Absolument, oui.
Voilà. Il existe depuis 1994. Non, pardon.
Non, pas le cirque d'hiver. Cirque d'hiver,
c'est... Pourquoi j'ai le cirque d'hiver? Oui, effectivement.
Cirque d'hiver, c'est Bouglione.
C'est Bouglione, effectivement. Ouais. C'est Bouglione. Un grand cirque aussi, une grande famille.
Absolument.
Grande famille. Voilà, ben, le cirque à son parc, c'est Alexis Grus. N'hésitez pas à vous rendre, donc, à un spectacle. Il privilégie la création et la transmission des arts de la piste en se sédentarisant. 5 mois par an, on a la chance que ce soit dans notre département, juste à côté de chez nous. Donc, il faut vraiment en profiter. Merci Jean-Marc, en tout cas, de cette interview très, très intéressant. On a l'occasion, de t'entendre régulièrement sur les ondes d'RTVFM, parce que tu fais partie de l'équipe d'RTVFM, je le rappelle. Encore merci pour tout ce que tu fais. Et puis voilà, puis je te dis à très très bientôt.
À bientôt.
Merci. Et merci aussi à Baptiste pour la technique.